Donc ce soir, nous allons dans la partie 2 du message que nous avons fait hier sur les 8 docteurs de la loi. Les 8 docteurs selon les principes qui sont dans la parole de Dieu pour être en bonne santé. Je vous invite, si vous pouvez, à vous mettre à genoux pour prier. Si vous ne pouvez pas, au moins courber la tête afin que nous prions Dieu avant de rentrer dans le message. Éternel, notre Père, notre Dieu, encore une fois, merci pour l'opportunité que nous avons de nous retrouver ici ce soir pour prier ensemble, pour te louer ensemble et puis pour partager ta parole ensemble, partager tes instructions ensemble. Accompagne-nous, Seigneur, alors que nous allons explorer les choses qui sont là depuis tellement longtemps, mais qu'il est bien de rappeler pour que nous puissions toujours progresser dans l'application de ces instructions que tu nous as données pour notre bien-être. Que ton Esprit Saint nous accompagne et que nous soyons édifiés, Seigneur, et que nous grandissions dans ce message de la santé. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, juste un bref récapitulatif, de ce que nous avons vu hier. J'ai commencé la plupart des messages avec Jean chapitre 10 et le verset 10, où Jésus dit qu'il veut que nous ayons la vie en abondance. Mais pour que cette promesse soit une réalité dans notre vie, il faut que nous suivions les instructions qu'il nous a données. On a vu aussi dans le psaume 100, verset 3, que Dieu dit que nous, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est lui qui est à l'origine de l'être humain, donc personne autre que Dieu ne sait mieux comment est-ce que notre corps fonctionne. C'est Dieu qui maîtrise, c'est Dieu qui sait comment est-ce que notre corps doit être maintenu en bonne santé. Il nous a donné un manuel d'instruction. Le manuel est là pour nous dire comment faire rouler la machine, comment l'entretenir et comment la réparer en cas de panne. Et ce manuel, c'est la Bible. C'est dans ce livre qu'on a trouvé les instructions sur comment est-ce que nous devons maintenir notre corps en bonne santé. On a vu hier aussi qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Proverbe 22, verset 3 dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Donc lorsque l'on voit le danger, il vaut mieux l'éviter, il vaut mieux prévenir que guérir. Et on se dit qu'on ne se maintient pas en bonne santé en combattant la maladie, mais on se maintient en bonne santé en préservant, en entretenant le corps pour ne pas arriver, pour ne pas tomber malade. Parce que lorsque l'on tombe malade, on a dit que c'est le corps qui essaye de rétablir un équilibre perdu. Ça, on l'a vu dans le ministère de la guérison, page 103, paragraphe 1, où elle disait que, page 102, paragraphe 1, où elle disait qu'il faut premièrement rechercher la cause. Parce que la maladie, c'est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Donc, lorsque cet équilibre est détruit, lorsque cet équilibre est rompu, le corps lutte pour rétablir l'équilibre et ça se manifeste par la maladie. On a vu aussi que malheureusement, souvent, les noms de la maladie n'indiquent pas c'est quoi la cause, ça indique juste quelle partie de votre corps est touchée par la maladie. Or, pour trouver la solution, il faut apprendre à raisonner de cause à effet. Il y a toujours une cause. Et malheureusement, même quand on va voir les professionnels, ils vont nous prescrire quelque chose pour combattre les effets, pour combattre les symptômes. Mais les visites, souvent, parfois, chez le médecin, si ce n'est pas votre médecin de famille qui prend votre temps avec vous, il prend 5 minutes, 2 minutes avec vous, puis il passe à un autre patient. Il ne prend pas le temps de savoir c'est quoi la cause. Donc, il vous donne quelque chose juste pour tuer les symptômes. Il analyse très vite, et il se peut que ce ne soit pas ça, et que ça s'empire. On a vu dans la parole de Dieu, dans Proverbe 26 et le verset 2, que ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet, ou des versions disent la malédiction sans cause n'arrive pas. Donc, on ne peut pas avoir un impact mauvais s'il n'y a pas une cause. Et dans Job 29, verset 16, il dit qu'il a examiné la cause de l'inconnu. Ceux qui ne connaissent pas la cause de quelque chose, il a examiné pour savoir c'était quoi la source. Donc, la maladie est combattue au niveau de la cause. Et puis, comment on la combat au niveau de la cause? En appliquant les 8 docteurs. On avait vu les 4 premiers hier. Donc, c'était la confiance en Dieu, selon Genèse 2, verset 17. On a vu l'air pur. Selon Genèse 1, verset 6 et 7, on a vu l'exercice, selon Genèse 2, verset 15, et on a vu le soleil, selon Genèse 1 et le verset 16. Et ce soir, nous allons continuer avec le repos, l'eau, la tempérance et la nutrition. On a vu aussi qu'il faut, il y a quatre éléments pour qu'il faut mettre en place pour combattre la maladie. Ça, c'est dans le ministère de la guérison, toujours page 102. Ça disait qu'il faut premièrement rechercher la cause, donc apprendre à raisonner de cause à effet. Il faut écarter les mauvaises habitudes qui font en sorte qu'on tombe dans cette situation. Il faut supprimer les conditions insalubres autour de nous. Puis ensuite, il faut aider la nature à éliminer les impuretés, à rétablir l'état normal de l'organisme. Donc souvent, on saute à l'étape 4, qui est aider la nature, sans voir est-ce qu'il y a une cause, est-ce qu'il y a des habitudes, ou est-ce qu'il y a un environnement insalubre qui nous amène dans ces conditions. Okay, ce résumé étant fait, allons dans le docteur numéro 5, qui est le repos. Le bon repos, si les gens se reposent convenablement, si les gens suivent le nombre d'heures qu'il faut dormir pour que le corps soit bien reposé, ça rajoute à notre vie entre 8 et 10 ans. Ça peut prolonger notre vie entre 8 et 10 ans par rapport à quelqu'un qui dort mal, qui se repose pas bien. Maintenant, les heures dont on a besoin pour dormir dépendent de notre âge, n'est-ce pas? On ne dort pas le même nombre d'heures à tous les âges. Donc, quand vous avez un nouveau-né, un nourrisson, il lui faut entre 16 et puis 20 heures de sommeil par jour. C'est pour ça que les nouveaux-nés, ils sont toujours en train de dormir. C'est parce qu'à leur âge, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'entre 16 et 20 heures de repos par jour pour que leur corps régénère. Ils sont en train de croître, ils viennent juste d'arriver dans ce monde. Donc, ils sont tout le temps en train de dormir. Quand les parents les emmènent à l'église, ils les mettent dans le culte, pendant tout le culte, en train de dormir, peu importe le niveau de la musique. Parce que ce sont des nourrissons, ils ont besoin de ça pour être reposés. Quand on grandit, on devient un jeune enfant, cette fois on a besoin d'entre 10 et 12 heures de sommeil. C'est pour ça que les parents disciplinés font en sorte que leurs enfants aillent au lit tôt et ne les mettent pas sur le même rythme qu'eux. Parce que les enfants ont besoin de plus d'heures, n'est-ce pas? Donc un adulte, ça a besoin d'entre, lorsqu'on arrive à 40 ans et plus, ça a besoin d'entre 6 et 7 heures, et puis c'est normal, mais l'enfant, il a besoin d'entre 10 et 12 heures, donc ils les mettent au lit plus tôt, pour que le lendemain, ils ne soient pas fatigués à l'école et tout, et ça a beaucoup d'impact sur leur vie, leur irritabilité, etc. Et donc, pour ceux qui sont adolescents, et puis on est jusqu'à la quarantaine, c'est environ entre 6 et 7 heures, donc on peut aller jusqu'à 8 heures, et ce besoin diminue un peu lorsqu'on devient encore plus vieux, parce que là, bon, on devient vieux, donc le corps répond différemment. Donc, disons, généralement, entre 6 et 8 heures de sommeil dont on a besoin pour que ça se réalise dans notre vie, à savoir que ce soit prolongé de 8 à 10 ans, parce qu'on ne néglige pas, on ne néglige pas le repos. Le repos recharge les batteries du corps, il renforce notre système immunitaire aussi, puisque le corps a besoin de se reposer pour pouvoir combattre les éléments étrangers. Il y a eu une guerre que les États-Unis ont fait, dans le Moyen-Orient, puis ils ont envoyé les soldats de l'armée de l'air pour bombarder les coins. Et ils se sont rendus compte que les soldats, souvent dans l'avion, ils tiraient sur des avions américains, donc ils se tiraient entre eux. Et ça faisait des blessés ou des morts que l'armée ne voulait pas. Mais ils se sont rendus compte que ça se répétait. Comment ça se fait que souvent les soldats se trompent et tirent sur un avion allié, sur un avion de leur équipe? Et l'armée s'est penchée sur la question pour savoir comment est-ce que ça se produisait, et ils se sont rendus compte que c'est à cause du rythme qu'on impose aux militaires, où ils n'ont tellement pas de sommeil, ils sont tellement fatigués, que même quand ils sont dans l'avion, leur discernement est affecté, donc ils n'arrivent même pas à bien identifier l'ennemi. Et c'est pour ça qu'ils voient un avion, hop, puis ils tirent dessus, parce que le cerveau n'est pas super alerte pour discerner que c'était un avion allié. Donc les impacts du repos sont vraiment importants. Donc si on dit que c'est des hommes durs, c'est des soldats, entraînons les durs, mais peu importe, on a toujours besoin de repos pour être efficace. Psaume 127 et le verset 2. En psaume 127 et le verset 2. Psaume 127 et le verset 2, c'est écrit. C'est écrit en vain. Vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc vous voyez ici, se lever le matin et se coucher tard. Ça, c'est souvent le péché ou l'erreur des étudiants, n'est-ce pas? Quand on est dans un bac ou dans des grosses études, souvent on se couche très tard pour étudier pour passer l'examen le lendemain. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le corps, parce qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit on réussit moins bien l'examen parce que notre cerveau n'est pas bien concentré, parce qu'on n'a pas eu assez de repos. ou soit on réussit l'examen, mais notre capacité de rétention n'est pas longue. Ça veut dire que très vite, on va oublier ce qu'on a appris. On a juste passé l'examen sans avoir vraiment assimilé la matière, parce que notre corps n'était pas dans un état où il pouvait parfaitement assimiler. Donc, la chose plus difficile à faire, mais qui est raisonnable à faire, c'est de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt, pour que le corps ait tout le besoin, le repos dont il a besoin. Il y a un médecin adventiste du nom de Neil Evely qui a fait des présentations là-dessus, puis il expliquait qu'en se reposant avant, en se couchant à 9 heures, tous les jours, pendant 3 mois, notre capacité de rétention va largement augmenter. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire pendant environ 3 mois pour qu'on commence à voir les effets. Donc c'est pas, j'ai un examen dans 2 semaines, puis là je me couche à 9 heures, et puis tout d'un coup je vais avoir un super cerveau là. Mais c'est pour dire qu'on doit avoir des habitudes qui aide le corps à se reposer pour vraiment avoir le bon effet. Dans le psaume 104, versets 19 à 23, ça parle du rythme des animaux. C'est-à-dire, il a fait la lune pour marquer le temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu emmènes les ténèbres et les nuits, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Donc là, il parle des animaux nocturnes qui, leur vie commence la nuit. Mais pour l'homme, c'est différent. Quand on va au verset 22 et 23, c'est écrit « Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. » Donc quand le jour arrive, eux, ils vont dans leur tanière. Mais pour l'homme, on dit « L'homme sort pardon, pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. » Mais la réalité de beaucoup de nous ici, c'est pas le soir. Beaucoup de gens ont des chiffres de nuit, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas vraiment selon le modèle que Dieu avait donné au départ, où l'homme, ce n'est pas comme les animaux qui, lorsque le jour se lève, on doit aller dans notre tanière ou dans notre lit. Normalement, on doit travailler le jour pour pouvoir se reposer le soir. Mais la réalité de certains corps de métier ou de la ville dans laquelle nous vivons, le rythme nord-américain, fait que nous avons souvent des chiffres de nuit, n'est-ce pas? C'est la réalité de beaucoup de gens, dans le domaine de la santé en particulier. Donc, quoi faire? Quoi faire quand est-ce que cela arrive? Quand je comprends, on ne peut pas dire aux gens « lâchez votre travail parce qu'ils vous ont dit de faire un chiffre de nuit », mais dans la mesure du possible, essayez d'avoir un chiffre de jour. Dans la mesure du possible, parce que c'est bon pour votre corps. Peut-être vous allez avoir un impact avec le temps qui va faire en sorte que ça va être mauvais pour votre santé à la longue. Donc dans la mesure du possible, essayez d'avoir un horaire de jour. Et si jamais vous faites tout et que ce n'est pas possible, ben, ne négligez pas le repos, parce que parfois il y en a qui ont un horaire de nuit. Donc, ils dorment, mais pas beaucoup. Ils ne dorment pas autant que s'ils se reposaient la nuit. Ça fait qu'au fur et à mesure que les années avancent, le corps ne se repose pas vraiment. Donc, vous rentrez, je ne sais pas moi, à 7 heures du matin, et puis à midi, vous commencez vos activités, vous avez juste dormi 5 heures. Vous n'êtes pas dans le 6 à 8 heures de sommeil dont vous avez besoin pour que votre corps se repose convenablement. Le jour, la glande pinéale qui est au niveau du cerveau, elle va synthétiser la sérotonine. Puis la nuit, elle va reprendre cette même sérotonine et puis elle va la transformer en mélatonine. Puis la balance qu'il y a entre les deux a un grand impact sur notre humeur. Donc il y a besoin de la lumière pour que ça synthétise la sérotonine qui est bonne pour la bonne humeur, etc. Et puis la raison pour laquelle des gens, on disait hier, mettent des lumières artificielles pour ne pas... l'hiver, pour ne pas être déprimé, c'est parce que ça va comme ralentir la transformation de sérotonine en mélatonine. Une heure de sommeil avant minuit équivaut à 2 heures de sommeil après minuit. Les heures de sommeil avant minuit sont bien plus efficaces que les heures de sommeil après minuit. C'est bon d'aller au lit... environ 3 heures avant minuit, ou 2 heures, si maximum 10 heures, disons. Et parce que malheureusement, le sommeil qui est perdu ne peut jamais être rattrapé, c'est perdu pour toujours. C'est on y va ou on y va jamais. Et si jamais vous êtes au lit et que vous êtes le genre de personne qui avait du mal à vous endormir, eh ben ne comptez pas les moutons. C'est ça qui imagine la bergerie et puis qui compte les moutons. Ne comptez pas les moutons, mais parlez au berger. Ça fait que mettez-vous à genoux et prenez ce temps-là comme un moment de prière. Donc, qu'est-ce que permet le docteur repos? Ça permet en gros d'avoir un corps auquel on peut rajouter 8 à 10 ans. Ça permet à notre système immunitaire et digestif de bien fonctionner. Et on a dit que les heures avant minuit sont bien plus efficaces que les heures après minuit. Ça permet de se relaxer comme il faut. Et puis, ça permet de faire en sorte que nous soyons opérationnels pour la nouvelle journée. Ils ont fait des études par rapport au jour du sabbat, le septième jour de la semaine, et se sont rendus compte que tout individu, peu importe sa religion, le septième jour, le samedi, le cœur bat plus lentement que les autres jours. Le corps se met en un mode repos le septième jour. Peu importe adventiste, bouddhiste, peu importe, tu es un être humain, le septième jour, ton corps bat moins vite que les autres jours. Plusieurs études en sont arrivées au même résultat. Donc, on doit avoir minimum un jour de repos par semaine. Et le jour idéal pour ça, c'est le septième jour, puisque naturellement, le corps se met en mode repos ce jour-là. J'ai trouvé ça intéressant. Docteur numéro 6, l'eau, la consommation d'eau. Il est important de boire beaucoup d'eau, parce que, c'est ça qui constitue en grande partie notre corps. Donc le corps, il est fait 75-70% d'eau. Le cerveau, c'est plus 80% d'eau. Donc ce que nous sommes dépend en grande partie de ce que nous buvons, n'est-ce pas? En grande partie de ce que nous mangeons, mais en grande partie aussi de ce que nous buvons. L'eau est essentielle au système circulatoire, c'est essentiel au système digestif, c'est essentiel à l'élimination des impuretés dans le corps, c'est essentiel pour la régulation de la température dans notre corps pour que nous restions toujours à 37 degrés. L'eau qui est dans notre cœur vient directement de l'eau que nous buvons, des aliments que nous mangeons. Il y a beaucoup d'aliments qui n'ont pas beaucoup d'eau. Lorsque l'on mange des viandes ou des choses de source animale, ça a très peu d'eau. Mais lorsque l'on mange des choses de source végétale, il y a beaucoup d'eau. Donc on reçoit l'eau, soit l'eau directement, soit de ce que nous mangeons, et surtout de ce que nous mangeons qui est d'origine végétale. Parce que les sources animales ont très, très peu d'eau. L'eau aussi est très importante pour le bon fonctionnement de nos reins. Alors ils ont fait des études, ils ont dit si jamais on n'avait pas de reins, si jamais le corps ne faisait pas ce travail de filtrage à travers les reins, pour que nous puissions avoir le même résultat, il faudrait que l'on boive par jour 800 verres d'eau. Chaque jour, il faudrait boire 800 verres d'eau pour faire le même travail que font les reins. Et nous avons du mal à boire 8 verres d'eau pour être en bonne santé. Donc Dieu nous a donné des reins pour nous éviter à chercher une rivière tous les jours. Mais nous avons du mal à boire les 8 verres d'eau qui font en sorte que nous serons en bonne santé. Nos cartilages ont besoin d'eau. C'est là que c'est le lubrifiant pour nos joints. Si on manque d'eau, on peut être dépressif, on peut être irritable. Et lorsque l'on perd jusqu'à 20% de l'eau qui est dans notre corps, la mort survient. Il faut éviter les aliments qui nous déshydratent, qui enlèvent l'eau de notre corps, comme le thé, comme le café, comme le chocolat, et comme les sodas, qui ont beaucoup de sucre. Donc, c'est ça, éviter tous ces aliments qui nous déshydratent. Le corps, lorsqu'il manque d'eau, il va aller chercher l'eau, on l'a vu dans sept éléments, dans sept parties du corps, dans cet ordre. Il va premièrement aller le prendre dans le sang, ça va faire votre sang va s'épaissir, ça va affecter votre tension artérielle, dans le mauvais sens. Ça va le prendre dans vos os, donc vos cartilages vont souffrir, puis il y en a qui vont souffrir d'arthrite à cause de ça. Ça va le prendre dans votre foie, et votre foie peut mal fonctionner maintenant, parce qu'il n'a pas assez d'eau. Ça va le prendre dans votre peau. Ça va créer un vieillissement prématuré, parce que les rides et tout ça se forment plus tôt que prévu. Ça va le chercher dans votre côlon, ça peut créer de la constipation. Ça va créer ça va le prendre dans votre cerveau, ça peut causer des pertes de mémoire, irritabilité, etc., perte de concentration, et finalement ça va le prendre dans vos cellules. Puis là c'est l'étape ultime, et vous pouvez même sentir de la douleur parce que vous êtes déshydraté. Les symptômes qui arrivent lorsque l'on manque d'eau, on a des maux de tête, constipation comme on a dit, on est fatigué, manque d'énergie, et on a la peau sèche. Maintenant, quelle quantité d'eau est-ce que l'on doit boire par jour pour être en bonne santé? Alors, le calcul veut se faire ainsi. Vous devez prendre votre poids en kilogrammes. Donc, prenez votre poids en kilogrammes, vous le divisez par 7, et ça vous donne le nombre de verres d'eau de 250 ml que vous devez prendre. Donc, quelqu'un de ma corpulence, quelqu'un comme moi, j'ai calculé que je dois boire 3 litres d'eau par jour pour être dans cette norme. Question, quel est mon poids? 100 kilos? Oh mon Dieu, il y en a qui sont méchants, là. Je ne fais pas 100 kilos, là. Kilo, kilo, kilo. On n'est pas en livre. Kilo, kilo, kilo. Kilo. Non, je suis plus gros que ça quand même. Mais c'est pas ça. Donc, je vais prendre 3 litres d'eau. Je prends mon poids en kilogrammes. Je le divise par 7. Ça me donne le nombre de verres d'eau de 250 millilitres que je dois boire. Moi, il me faut 3 litres. Je pèse combien? Hein? Pardon? Bah oui, le frère poche, c'est ça. Entre 85 et 80 kilos, c'est ça. Parce qu'il me faut 12 verres d'eau. 12 verres d'eau de 250 millilitres. Donc, ça, c'est une bouteille de 500 millilitres. Ça veut dire qu'il me faut combien de bouteilles comme ça par jour? Il me faut 6, ok. Il me faut 6 bouteilles comme ça par jour. Donc, ma femme le sait, là, à chaque fois que je prends les bouteilles escales, je sors avec plein de bouteilles d'eau le matin pour aller au travail. Et puis, je m'assure d'en boire autant que je peux. Donc, il faudrait que j'en prenne 6 pour que je sois dans les normes. Parce que mon poids, c'est ça, 86, 88 kilos, à peu près. Maintenant, en livres, si jamais vous calculez, enfin, moi, je pense toujours en kilos, je ne pense pas en livres, là. Donc, vous devez prendre votre poids qui est en livres et vous le devez le diviser par 6 et ça va vous donner le nombre de verres de 8 onces que vous devez prendre. Nombre de verres de 8 onces. Donc, c'est par 16, pardon, pas par 6, par 16. Là, vous alliez avoir peur, là. Par 16 en onces. OK. Donc, répartissez votre consommation d'eau dans la journée pour que, exemple, moi je sais qu'il m'en faut 6, mais en sentant que je ne vais pas me lever les matins, mettre les 6 et les caler les unes après les autres. Parce que si on boit trop vite, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la pression sur nos reins, puis on va aller très souvent uriner, et on va éliminer beaucoup d'électrolytes de notre corps, et on va éliminer le calcium, potassium de notre corps va sortir dans les urines. Donc, on va créer d'autres problèmes. Donc, pour que ce soit bon, il faut le boire, mais tranquillement et l'étaler sur la journée. Donc, le matin, 2 verres, vers midi, 2 verres, puis ainsi de suite, l'étaler sur la journée pour que votre corps reçoive toute la consommation d'eau. Donc, faites le calcul pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Prenez votre poids, c'est en kilogrammes, divisé par 7, ça donne le nombre de verres de 250 millilitres. Et si c'est en livres, divisé par 16, ça vous donne le nombre de verres de 8 onces. 8 onces, c'est environ 240 millilitres. L'effet de l'eau sur le corps, c'est bon parce que ça liquéfie le sang, c'est bon parce que ça désintoxique le corps, ça permet d'éliminer, on bien dit, les mauvaises choses, et c'est bon parce que ça nous aide à notre consommation d'oxygène. Quand prendre l'eau? Ne pas la prendre en même temps que l'on mange, mais d'attendre au moins 2 heures après que l'on mange et puis environ 1 heure avant que l'on mange. Pourquoi? C'est parce que notre corps, pour opérer la digestion, il a besoin de 2 choses. Il a besoin que les aliments qui sont dans votre corps soient à une certaine température. Et il a besoin aussi que les aliments qui sont dans votre corps baignent dans un acide qui a un certain pH, une certaine acidité. Donc, si vous buvez en même temps que vous mangez, vous refroidissez la température. Admettons que vous buvez quelque chose de froid, n'est-ce pas, vous vous refroidissez, donc le corps va prendre le temps, avant de commencer la digestion, il va prendre le temps de chauffer d'abord pour que ça atteigne la température, sinon il ne commence pas la digestion. Ou l'autre chose, c'est que vous diluez l'acidité qui est dedans, donc il va sécréter plus de sucre acide pour augmenter l'acidité jusqu'à ce qu'il atteigne le taux voulu, puis là il commence la digestion. Ça fait qu'entre-temps, la nourriture reste là, tourne et puis forme des gaz et puis tout ce que vous voulez, ou alors sort dans un état presque dans le même qu'il est rentré, vous me suivez? Donc, pour que la digestion soit efficace, il faut pas brouiller le travail de l'estomac en le noyant dans l'eau. C'est ça l'idée. Donc, ou vous buvez, ou vous mangez. Mais je dis pas qu'il ne faut pas prendre une petite soupe en même temps que vous mangez, mais il faut pas quand même boire vos 2 bouteilles d'eau de 500 millilitres en même temps que vous mangez, vous me suivez? Ce n'est pas 2-3 gorgées qui vont gâter le travail, mais on parle de beaucoup boire en même temps qu'on mange. Donc, docteur numéro 7, la tempérance. La tempérance. La tempérance, lorsqu'on l'utilise dans le terme de la santé, il y a 3 aspects de cette définition. Ça veut couvrir 3 volets. Premier volet, c'est que c'est la modération dans la consommation de tout ce qui est bon. Donc, je mange ce qui est bon, mais de façon modérée. Le deuxième aspect, c'est de m'abstenir totalement de tout ce qui est mauvais. C'est souvent dire, oh, telle chose, c'est mauvais. Oui, mais si j'en mange un peu, qu'est-ce que ça va être quoi, les effets sur mon corps? OK, si tu en manges un peu, oui, mais tu n'es pas tempérant. La tempérance, c'est l'abstinence totale de ce qui est mauvais. Parce que un peu là, ça fait des dégâts quand même. J'ai lu un livre, Danielle Steinke, si vous avez entendu parler d'elle, c'est une auteure sur le livre de la santé québécoise, qui m'a parlé, c'est une amie à moi, je la vois souvent, puis elle me parlait des effets de l'alcool, que même juste une goutte d'alcool, là, ça suffit pour aller détruire des cellules dans votre cerveau. Une seule goutte. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Non. Mais moi, je trouve que j'aimerais avoir encore plus de cellules. Ça fait que je n'ai pas une cellule à détruire. Je n'ai pas ce budget-là. Je veux toutes mes cellules et plus encore. Rappelez, on parlait de la première présentation, comme quoi nous sommes vraiment dégénérés par rapport à Adam. Donc, je n'ai pas besoin d'accélérer cette dégénérescence. Donc, la tempérance, c'est consommer avec modération ce qui est bon, et c'est de s'abstenir totalement de ce qui est mauvais. Et la troisième chose, c'est d'avoir la maîtrise de soi. Parce que c'est par la maîtrise de soi qu'on arrive vraiment à faire ces choses. Daniel nous a donné l'exemple. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, c'est écrit, Daniel chapitre 1, le verset 8, c'est écrit, Daniel, ben je vous donne le temps d'y arriver, Daniel chapitre 1, le verset 8, Daniel chapitre 1, le verset 8, c'est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Donc, voyez ici, totale abstinence. C'est pas dire, oh, je vais en prendre un peu sur le côté. Il a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et par le vin, aussi, totale abstinence, dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Maintenant, pour continuer l'histoire, pour ceux qui savent ou pour ceux qui ne savent pas, toujours dans le même chapitre, parce que Daniel a fait ce choix, lui et ses trois compagnons, Dieu les a bénis avec une intelligence supérieure. Il leur a donné des dons, et à Daniel le don de la prophétie, d'interpréter les rêves, etc. Et c'est pour ça qu'on voit ce don manifesté dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 7, etc. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que parce que Daniel a fait ce choix dans Daniel chapitre 1, nous avons Daniel chapitre 2, et Daniel chapitre 4, et Daniel chapitre 7. Est-ce que vous suivez? C'est parti d'un choix qui a donné de très bonnes conséquences. S'il n'avait pas été tempérant, en s'abstinant de tout ce qui est mauvais, eh bien, on n'aurait pas eu Daniel chapitre 2, Daniel chapitre... On aurait eu... Dieu serait passé par quelqu'un d'autre. On aurait eu le message, parce que Dieu peut toujours accomplir sa volonté, mais ça aurait été par quelqu'un d'autre que Daniel. Donc, abstenez-vous, abstenons-nous de toutes ces choses. Le thé, l'alcool. Puis en passant à boire beaucoup de lait de vache et en mettant beaucoup de sucre dedans, ça donne le même effet que l'alcool. Donc, pensez Fruit Loops ou des choses que vous... Les céréales où il y a beaucoup de sucre, vous mettez beaucoup de lait de vache dedans, ça donne le même effet que l'alcool. Le café, bien sûr. Les cigarettes. Bon, je pense qu'il n'y a personne affecté par la cigarette ici, mais quand même. 90% des cancers qui viennent de la cigarette, là, cancer des poumons, cancer de la lèvre, cancer de la bouche, cancer de la langue, cancer de la gorge, cancer de l'œsophage, et la moitié des cancers de la vessie viennent du fait que les gens fument. 90% de ces cancers-là viennent de la cigarette. C'est énorme. Enlevez toutes les boissons qui ont de la caféine. Et on avait dit l'autre fois que même celles qui sont décaféinées sont pires que celles qui ont de la caféine à cause des produits chimiques qu'ils mettent dedans pour neutraliser la caféine. Exemple, à l'université de Loma Linda, qui est l'université adventiste en Californie, là, ils ont fait une expérience. Ils ont pris une araignée. Vous savez, les araignées ont la capacité de faire ces magnifiques toiles d'araignées. Bon, il y en a qui ont peur des araignées, mais il faut reconnaître leur talent artistique. Si vous regardez vraiment une toile d'araignée, là, c'est extraordinaire. Comment est-ce que cette petite bête peut faire un chef-d'œuvre comme ça? Donc elle commence hein, par un petit cercle, et puis elle tourne tout autour, puis elle trace des lignes parfaitement alignées. Les cercles ne s'entrecroisent pas, n'est-ce pas? C'est vraiment une belle toile, c'est comme une belle broderie que font ces araignées. Donc ils ont pris une araignée, puis ils l'ont mis de la caféine à l'intérieur, comme si tu bois deux tasses de café. Pour l'équivalent pour l'araignée, bien sûr, là, ils l'ont mis dans l'araignée. Puis ils ont regardé comment elle allait faire cette toile. Donc l'araignée est partie, a commencé à faire sa toile. La première toile qu'elle a faite était toute croche. Il y avait, au lieu d'avoir les, je sais pas moi, les 100 ou 300 fils que l'on voit d'habitude, il y en avait 8 ou 12, et très mal placés. Donc l'araignée était sous l'effet de la caféine. Ils ont attendu un peu, 48 heures plus tard, elle va faire sa toile encore. Là, la toile commençait à avoir du sens. 48 heures, deux jours plus tard, elle n'a toujours pas la même toile. Donc, la toile était encore croche. Au lieu d'avoir 12 fils, il y en avait comme une cinquantaine. Mais croche, les cercles s'entrecroisent et tout, c'était mal fait. Puis, ils ont attendu 96 heures. Donc, 4 jours plus tard, c'est là seulement après 4 jours que l'araignée a pu faire une toile comme elle le faisait avant. Donc, c'est comme si on droguait l'araignée, puis ça a pris 4 jours pour qu'elle retrouve son état normal. Or, souvent, quand on arrive au travail, c'est quoi que les gens? Oh, mon café. Le matin. Sinon, je ne peux pas travailler. Café à 10 heures. Café à midi. Café à la pause de 3 heures. Café à 5 heures avant de partir. Puis ça, j'ai vu ça. Tout le monde a vu ça dans le travail. Les gens roulent sur le café tous les jours. Très mauvais pour le corps. Déshydrate, attaque le système nerveux. Rien de bon. La caféine enlève du corps les vitamines B. Ça enlève le calcium, ça enlève notre fer. Cause des problèmes digestifs, cause des problèmes au niveau du cœur. Vous savez, les boissons comme Red Bull, qui sont en fait une concentration extraordinaire de café, là, c'est comme si vous buvez 20 verres de café d'un coup, en prenant une canette Red Bull, ben, il y a des jeunes qui ont des palpitations terribles. Il y a même eu des cas de décès. C'est comme s'ils avaient eu une overdose de quelque chose, juste un Red Bull. Enfin, juste. Ça a l'air innocent, mais ça ne l'est pas. Et ça peut causer des crampes. C'est parfois les gens ont des crampes, là, ils ne savent pas d'où ça sort, la caféine. Causer des crampes. Le sucre. La consommation de sucre. Bon, ben là, moi, ça va être mon problème beaucoup. Puis là, je fais attention. Il y en a qui ont la dent salée, moi, j'ai la dent sucrée. Mais le sucre, ce n'est pas bon parce que c'est un élément qui n'apporte, ça apporte aucun nutriment. Je parle du sucre blanc raffiné. Là, ça apporte pas de bons nutriments dans votre corps. Et puis, ça demande tous les autres nutriments que vous avez pour le métaboliser. Donc, ça vous donne rien, mais ça vous prend tout. Ça affaiblit votre système immunitaire. Je consommais énormément de sucre, toutes sortes de gâteaux, de biscuits, de cette. Même là, je dois faire attention. Mais avant, c'était grave. Et en arrivant ici, une fois, j'étais avec des jeunes de l'église de Bethesda, on devait aller faire un projet ensemble. Puis il y avait une des jeunes qui s'appelle Vicky, qui je devais acheter des biscuits. Puis elle a juste dit attention, pour les biscuits, je pourrais tomber malade. Alors je suis sorti de la voiture, puis bien sûr j'ai acheté les biscuits et je suis tombé malade. Et c'est là la première fois que j'ai fait le lien dans ma tête entre le sucre. Et la maladie, ça, j'avais quoi, je devais avoir 22 ans, mais j'avais jamais fait le lien entre les deux. Donc tout le sucre que je mangeais, tous les iced tea que je buvais et tout ça, affaiblissait mon système immunitaire et je ne m'en rendais pas compte. Et les gens ont fait des études, puis voilà, maintenant je comprends pourquoi est-ce que je pouvais tomber aussi facilement malade avec autant de sucre. Ils ont fait des études pour dire en 3 minutes, vous savez, on a des globules blancs dans le corps qui vont manger, tuer les bactéries, n'est-ce pas? Et ils ont une capacité... combien de bactéries est-ce qu'ils peuvent détruire, tuer en 3 minutes? Maintenant, dépendamment du sucre qu'il y a dans votre corps, eh ben, elles vont être efficaces ou moins efficaces. Donc, si vous avez l'équivalent de 0 cuillère à thé de sucre dans votre, par jour, elles vont pouvoir détruire 14 bactéries en 3 minutes. Donc, ce sont des super soldats, elles détruisent 14 bactéries en 3 minutes. Si vous en avez 6 dans votre corps par jour, elles vont pouvoir détruire 10 au lieu de 14. Si vous en avez 12 cuillères à thé par jour, elles vont pouvoir détruire 5,5 au lieu de 14. Si vous en avez 18, elles vont en tuer 2. Et si vous en avez 24, elles vont en tuer 1. Donc, le lien est facile à faire. Et si vous en avez plus, ben, imaginez que votre système est libre, tout simplement, à l'entrée des bactéries dans votre corps. Le chocolat, caféine dans le chocolat, ça cause, peut causer, pas aider les gens qui ont l'asthme, donc le chocolat, ça peut poser des problèmes abdominaux, des irritations, faites se gratter, et puis ça peut emmener la toux facilement parce que chocolat, sucre, toutes ces choses vont ensemble. Dans le chocolat, il y a la théobromine qui irrite le système nerveux, qui cause l'insomnie, et dépression et anxiété, tout ça dans le chocolat. Donc plein de choses dont nous n'avons pas besoin. Et puis si vous remarquez, il y a beaucoup de substances qui sont cousines. Donc le chocolat, on a dit théobromine, mais théobromine, il y a aussi caféine qui termine de la même manière, il y a aussi nicotine qui termine de la même manière, puis il y a finalement cocaïne qui termine de la même manière. Donc on est allé par ordre de qu'est-ce qui est du moins dangereux au plus dangereux, mais ils ont tous des effets, maintenant ça dépend de l'ampleur. Donc c'est sûr que la caféine va être moins intense que la nicotine et puis que la cocaïne, mais c'est ce même effet de violence sur le système nerveux qu'il faut éviter. Donc nous sommes invités par Dieu à s'abstenir totalement de ces choses. Le lait de vache. Alors, le lait de vache, ou le lait, okay, le lait de vache. Est-ce que vous voyez aujourd'hui aller en campagne, vous êtes en plein marché, puis là vous voyez des vaches passer, et vous avez tout d'un coup envie de boire du lait, et vous courez, trouvez la vache, et vous mettez en dessous, puis vous mettez à téter le lait qui sort de la vache. Est-ce que vous voyez faire ça? Non, mais par contre, aller à Maxi, puis prendre la bouteille de lait, puis le mettre dans... C'est la même chose, hein? Bon, à part le processus de pasteurisation, mais c'est le même lait qu'on n'est pas censé prendre, n'est-ce pas? Celui qui vient en dessous et puis qui boit le lait, c'est le veau, parce que ce lait est fait pour lui. Donc c'est seulement l'homme qui va boire le lait d'une autre espèce. Vous avez pensé à ça? C'est seulement l'être humain qui fait ça, aller boire le lait d'une autre espèce. Quand on a fini de boire le lait de notre mère à un an et quelques, le reste du temps, on va boire le lait de la mère d'une autre espèce. C'est pas normal. Maintenant, il y a des calculs qui ont été faits parce que le taux de protéines qu'il y a dans la concentration de ce lait, donc le nombre de milligrammes de protéines par litre, c'est en fonction du temps que met l'espèce à doubler sa masse. Donc, le lait que l'on consomme est proportionnel à ce qu'il faut le nombre de protéines qu'il y a dans le lait que l'on consomme est en fonction de ce que notre espèce a besoin pour doubler sa masse. Ok, je donne les exemples, hein. Donc, l'être humain, quand il boit le lait de sa mère, il y a 1,2 mg de protéines par litre. Et pour qu'il puisse doubler sa masse, le bébé, il lui faut 120 jours. 120 jours pour pouvoir doubler sa masse. Mais quand on vient à la vache, il y a 3,3 mg de protéines dans un litre. Mais ça a été fait pour le veau, et lui, pour qu'il puisse doubler sa masse, il lui faut 47 jours, et non pas 120 jours. Donc pour nous, il nous faut plus du double, mais on va boire son lait. C'est vraiment pas cohérent. Donc, vous voulez du lait, oui, mais aussi prenez les allergies qui vont avec, prenez l'asthme qui va avec, prenez le diabète qui va avec, prenez les problèmes aux reins qui vont avec, prenez l'ostéoporose qui va avec et prenez la sinusite qui va avec. Le lait est juste pas fait pour nous. Donc nous allons consommer quelque chose qui est passé. Toujours être tempérant, ça nous aide pour éliminer les toxines, ça nous aide pour régler le taux de sucre qu'il y a dans notre corps. Les attaques que les gens ont au niveau des crises cardiaques, souvent elles sont plus intenses, deux fois plus intenses sur ceux qui ne mangent pas aux bonnes heures. On a dit, je n'ai pas dit, mais le bon moment pour manger c'est deux ou trois repas par jour, beaucoup le matin. Comme un roi le matin, comme un prince à midi, puis comme un pauvre le soir. Ceux qui sautent le petit déjeuner, puis moi j'ai fait ça pendant la majorité de ma vie, là, j'ai les deux premiers tiers de ma vie, c'est ça que j'ai fait. Donc là j'ai 32, jusqu'à 20, 22 environ, petit déjeuner, je ne connais pas. Pas parce que mes parents étaient pauvres, mais parce qu'on n'a pas le temps, il faut partir, et puis on mange bien à midi. Puis on mange beaucoup le soir, surtout parce qu'on prend l'habitude avec le ramadan, n'est-ce pas? Donc vous coupez le jeûne au coucher du soleil. Et puis moi, je ne voulais pas me lever avant 4 heures du matin pour manger, parce que le soleil va se lever. Donc j'attendais le soir. Donc je prenais l'habitude de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup le soir. Très mauvais pour la santé. Alors que le plan de Dieu, c'est assez le matin, à midi, et puis comme un pauvre le soir. Maintenant, ceux qui sautent le petit déjeuner augmentent leur chance de problèmes cardiaques de 2,5. Ils ont 2,5 fois plus de chances d'en avoir que quelqu'un qui prend le petit déjeuner. C'est fou, hein? Je n'aurais pas cru qu'il y aurait un lien entre ça. Mais oui, le moment où on mange et puis notre santé en général a un gros impact aussi. La façon dont on dort, la première fois que j'ai compris ce lien que manger le soir, c'était pas bon, c'était même pas en entendant une présentation de la santé, mais c'était en me disant j'ai un problème au niveau spirituel avec Dieu, je vais jeûner. Et comme j'avais l'habitude de manger beaucoup le soir, je me suis dit je vais faire un jeûne de 24 heures du soir au soir. Donc en arrivant de l'école, je mange tout de suite, gros repas là, à 4h30 quelque chose, et à 5h j'ai fini. Maintenant, je vais manger le lendemain à 5 heures. Alors, en arrivant le lendemain, je me rends compte que mon état en classe est totalement différent. Parce que voici quelle était ma routine, c'était pendant que je faisais mon bac. Donc, ma routine, c'est je me lève, je dois être à l'école à 8h30 pour le cours. Donc, je me lève à 7h30. J'ai une heure pour m'habiller, tout ça, et arriver à l'université à HEC Montréal. Donc, je saute de mon lit, je cours à la toilette, je fais rapidement ma toilette, je m'habille, je cours pour prendre l'autobus, et là, je saute entre les stations pour être sûr d'arriver à temps. Quand j'arrive à l'université, station Université de Montréal, je saute, je cours pour arriver en classe, je monte les marches comme un athlète, puis je m'assois dans le cours, puis là, il est 8h28 ou et demi, pile. Ça, c'était ma routine. Donc, j'ai pas mangé là. Ça fait que parce que j'ai fait tout cet exercice, je suis très alerte jusqu'à 10 heures environ. À 10 heures là, pendant le cours de 10 heures, systématiquement, je vois que je lutte pour me concentrer. Je cogne des clous constamment et tout. J'arrive pas à me concentrer. Et puis, j'ai très faim alors qu'on va manger vers midi. Mais ce jour-là où j'avais jeûné, je me rendais compte, j'ai fait la même routine. Mais je me suis rendu compte qu'à midi, je ne cogne pas des clous. Je suis alerte. Et c'est la magie. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là que j'ai fait le lien. C'est parce que quand on mange tard, le corps ne peut pas. Parce que le corps ne peut pas pleinement se reposer parce qu'il est en train de digérer la nourriture. Donc au lieu de se reposer, il dépense encore de l'énergie. Donc vous dormez, mais vous ne vous reposez pas pleinement. Et cette fatigue va vous rattraper plus tard dans la journée. Donc c'est pour ça que c'est important de bien manger le matin et non pas le soir comme je faisais, et à midi, puis comme un pauvre le soir. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Galates chapitre 5 et le verset 23 dit la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. La tempérance est mentionnée comme un fruit de l'esprit. Et dans 1 Pierre 1, verset 6, dans l'échelle de la sanctification, la tempérance est mentionnée également. C'est écrit, à la science, on ajoute la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Ce sont des œuvres que l'esprit veut développer en nous. Nous devons être tempérants, ou disons, tempérants dans tout. La nourriture, dans le vêtement aussi. Si on prend des vêtements trop serrés, ça va affecter notre circulation. La circulation ne va pas bien se faire, donc ne pas prendre des vêtements qui nous serrent trop, mais il faut être confortable, mais pas trop serré. La tempérance aussi pour ceux qui sont mariés dans la sexualité, parce que lorsque les gens performent l'acte sexuel et que l'homme a une éjaculation, à chaque fois il perd la capacité de zinc qu'il absorbe dans une journée. Et il faut 3 jours pour que ce taux de zinc revienne dans le corps. Et ceux qui abusent de ça, à travers d'autres perversions sexuelles qui ne sont pas dans le mariage, vont tellement être en manque de zinc que ça peut avoir un effet sur le cerveau. Et il y en a que ça emmène dans la folie.
ou
alors lorsque beaucoup de temps passe, la personne est jeune et puis abuse de cela, eh bien, plus tard dans sa vieillesse, ça peut causer des problèmes au niveau de la prostate. Donc tempérant dans tout ce que nous faisons. Docteur numéro 8, la nutrition. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas mariés, abstinence totale à ce niveau-là. Docteur numéro 8, la nutrition. La nutrition, c'est un facteur numéro 1 pour la santé physique. En tout cas, c'est le facteur numéro 1 qui impacte le plus notre santé. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle, un documentaire, qui s'appelle Forks Over Knives. Donc, Forks Over Knives, ça veut dire la fourchette au-dessus du bistouri, si vous voulez, du couteau du chirurgien. Ça fait qu'au lieu d'attendre d'être très, très malade et puis que le chirurgien vienne vous faire des opérations au niveau du cœur, là, mais pourquoi pas corriger les choses avec la fourchette, ce que vous mettez dans votre corps. Je trouvais que c'était très bien trouvé comme titre. Et dans ce livre, vous voyez que celui qui fait le documentaire, il vient trouver des gens, il interroge des docteurs qui ont écrit des livres sur comment est-ce que les gens doivent être en meilleure santé, etc. Et lui-même, alors qu'il fait le documentaire, il se prête au jeu, donc il adopte ses habitudes alimentaires, et à la fin du documentaire, lui aussi, il échappe à une opération. Finalement, il se rend compte qu'il allait mourir, puis faire ce documentaire, non, pas qu'il allait mourir, mais qu'il allait au moins avoir une opération, et faire ce documentaire l'a sauvé de cet état. Donc c'est fou, comme par la nutrition seulement, on peut s'éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. Le tueur numéro 1 en Amérique du Nord, c'est les problèmes du cœur. Alors, ceux qui se nourrissent convenablement, et spécialement les végétariens, échappent, ont beaucoup moins de chances d'avoir des maladies du cœur. Le tueur numéro 2, qui est le cancer en Amérique du Nord, encore une fois, ceux qui se nourrissent convenablement et qui consomment surtout des produits végétaux, qui sont végétariens ou végétaliens, ont beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes au niveau du cancer. Et le tueur numéro 3, qui est le diabète de type 2, donc le diabète que l'on développe. Encore une fois, ceux qui mangent convenablement et qui sont végétariens ou végétaliens ont beaucoup moins de chances de le développer. Proverbe 30, verset 8, dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ou d'autres versions disent « le pain qui m'est convenable. » Donc la nourriture qui m'est convenable. Donc prenons la nourriture qui nous convient, et on évitera bien, bien des problèmes. Dieu a béni chaque nation en leur donnant la nourriture qui leur convient, la nourriture dont ils ont besoin pour être en bonne santé, dépendamment d'où ils vivent. Ici, on est tellement dans l'abondance qu'on peut recevoir des produits de partout sur la planète, n'est-ce pas? Mais si on se fie à ce qui pousse ici, ben c'est ce que nous avons le plus besoin pour être en bonne santé ici. Donc, pensez à ce qui pousse au Québec, c'est ça qu'on a besoin d'abord. Puis après, pour manger des autres choses. Ecclésiaste 10, verset 17, dit « Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force. » Donc, dont les princes mangent bien. Donc, heureux le pays où les dirigeants ont compris le message de la santé. C'est ça, en fait, que c'est en train de dire. Heureux le pays où les dirigeants ont compris le message de la santé, mangent convenablement et non se livrent à la boisson. Donc, la Bible, c'est un livre de contraste, hein, le contraire, c'est où je te bénis ou je te maudis. Donc là, c'est heureux les dirigeants qui ont compris le message de la santé, puis malheureux le pays où les dirigeants n'ont pas compris le message de la santé. Parce que ça va permettre d'avoir un bien meilleur jugement. La mauvaise alimentation versus la bonne alimentation. Dans la mauvaise alimentation, surtout ce qu'il y a ici, c'est qu'on prend des aliments qui ont beaucoup, beaucoup de gras. On prend des aliments qui ont beaucoup, beaucoup de protéines. On prend des aliments qui ont très, très peu de fibres. Et on prend des aliments qui ont très très peu de nutriments. Et bien sûr, celle de Dieu, c'est l'opposé que l'on va voir tantôt. Des aliments qui ont beaucoup beaucoup de gras, les gens aiment la viande, les gens aiment faire des barbecues, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait des barbecues, le gaz là, qui va être en contact avec l'aliment, ou la chaleur qui va brûler la chair animale, ça va dégager du benzopyrène, qui est quelque chose de très cancérigène. Donc dans un steak, dans un morceau de steak que vous mettez sur votre barbecue, le benzopyrène qui va être dégagé, là, qui va se retrouver dans ce steak, il y en a autant que dans 600 cigarettes. Autant que dans 600 cigarettes. Donc, parfois, les gens ne fument pas, mais aiment tellement la viande que ça va créer un peu le même effet, vous suivez? Aiment tellement les barbecues. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de barbecue, mais pensez-y, mettez autre chose à la place du steak. Le porc, ben, les aliments purs et impurs sont séparés dans la Bible avant même l'arrivée de Moïse, n'est-ce pas? On voit ça dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à Noé de faire rentrer cette paire d'animaux purs et puis juste une d'animaux impurs. Donc la distinction était faite et puis le porc est l'un des animaux impurs. Il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de vers dans le porc. Et les Égyptiens, vous savez, où Dieu disait, voulait séparer complètement son peuple de la façon dont les Égyptiens mangeaient, ben ils mangeaient ces animaux impurs. Et aujourd'hui même, lorsqu'ils font l'extraction de momies, eh ben ils peuvent trouver dans la momie, en examinant la momie, ils peuvent trouver des vers encore vivants qui sont venus de ces animaux impurs qu'ils ont mangés. Donc si c'est vivant après tout ce temps-là dans la momie, c'est sûr que ça vous suit dans votre petite vie, n'est-ce pas? Donc, abstenons-nous du porc. Souvent, on ne pense pas à ce que mange le porc, mais quand les gens ont des fermes, etc., et puis ils sont dans un petit coin où il y a une mouche qui va passer, ben, le crapaud va venir et puis va manger la mouche. Et ensuite, dans la chaîne alimentaire, le serpent va venir et il va manger la grenouille ou le crapaud. Puis ensuite, dans la chaîne alimentaire, le porc va venir et va manger le serpent. Et ensuite, dans la chaîne alimentaire, l'homme va venir puis va manger le porc. Donc, finalement, on est parti d'une mouche, mangée par un crapaud, mangée par un serpent, mangée par un porc et mangée par l'homme. Il n'y a aucun animal pur dans la ligne. C'est dégueulasse, hein? Mais les gens mangent beaucoup de cet animal. Donc, on doit prendre des aliments qui n'ont pas trop de ces gras, pas de choses impures, qui n'ont pas trop de cholestérol, mais qui n'en ont pas dans le fond. Donc, en mangeant beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'aliments basés sur les plantes, les aliments qui ont beaucoup de gras sont très mauvais pour le système immunitaire, peuvent nous créer des blocages au niveau de nos veines. Le bon régime que Dieu veut est totalement contraire, c'est-à-dire peu de gras au lieu de beaucoup de gras, des protéines, mais assez, pas trop. Sur les gens, si je mange plus de viande, où est-ce que je vais trouver mes protéines? On a besoin de protéines, mais pas tant que ça. Beaucoup de fibres, alors qu'on mange beaucoup de choses souvent qui n'ont pas assez de fibres. Et beaucoup de nutriments, parce qu'on a besoin pour le bon fonctionnement de notre corps. Et les nutriments, où est-ce qu'ils se trouvent? Ben, on a vu dans la présentation la semaine dernière que notre corps est... Dieu nous a formés de la poussière du sol, donc les éléments dans notre corps ont besoin, sont tous dans le sol. Et j'en fais des analyses pour voir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans un épi de maïs, un épi de maïs, qu'est-ce qu'il y a comme nutriments là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme éléments, puis beaucoup des éléments qui sont là-dedans, quasiment presque tous les éléments qui sont dans notre corps, dans un épi de maïs. Donc mangeons les choses qui viennent vraiment du sol, comme Dieu l'a dit dans Genèse 1, verset 29. C'est écrit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, céréales, graines, fruits, c'est ça notre nourriture. Et puis après le péché, Dieu a introduit maintenant la consommation des herbes des champs, c'est-à-dire les légumes. Simple façon de distinguer le légume et le fruit, c'est que le fruit pousse. Sort à la surface alors que le légume sort en dessous. Donc parfois il y en a qui demandent la tomate fruit ou légume. Fruit parce que ça sort au-dessus. Carottes, pommes de terre, toutes ces choses en dessous de la terre, légumes. Donc c'est des choses que Dieu a rajoutées après à cause du péché, mais avant il donnait ça comme aliment aux animaux. Mais nous c'est une manière de compenser pour que nous ayons tous les nutriments dont nous avons besoin dans le sol, en plus des graines, des noix, etc. Donc je précise parce que j'ai déjà parlé là-dessus, puis les gens étaient confus. Est-ce que tu veux dire que manger des légumes, c'est un péché? Que Dieu n'a pas dit ça dans le jardin d'Éden? Non, je ne dis pas que c'est un péché, là. C'est là, et puis ça ne vient pas du péché, les légumes. Là. C'était l'herbe des champs, elle était déjà présente. Je dis juste que la réalité, si vous lisez la Bible, vous allez vraiment vous rendre compte que dans Genèse 1, verset 29, il n'y a pas les légumes. Mais après, quand vous allez dans Genèse 9, et puis que Noé sort du déluge, et que vous voyez la malédiction aussi dans Genèse 3 que Dieu a donnée à Adam, vous voyez que l'herbe des champs vient comme nourriture. C'est pour pallier, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Mais je précise juste parce que je l'avais déjà dit, puis des gens ont mal compris ce que j'avais dit, donc je le précise. Donc, la viande peut remplacer par les noix, les grains, les légumes. Les œufs, le tofu, c'est des brouillis de tofu, ça peut être une bonne alternative. Le fromage, on peut prendre encore des noix, puis des grains, puis faire des fromages végétaliens, ce sont ces sources animales. Et puis éviter tous ces pains qui n'ont aucun nutriment, tous ces pains blancs-là, que si vous le mettez à terre, le pain blanc, le rat ne va pas manger le pain blanc, mais nous, on mange le pain blanc. Il faut prendre des choses au blé entier. Il vient là, il voit qu'il n'y a aucun nutriment, il ne mange pas ça. Et pourtant, ça se vend partout, les gens font un sandwich au pain blanc. J'avais vu quelqu'un qui a fait une présentation sur la santé, j'ai trouvé ça intéressant, il montrait pourquoi est-ce qu'on mange du pain qui n'y a rien dedans. Puis il avait acheté un de ses pains, puis il avait dit, regardez, une simple démonstration. Donc il a sorti du plastique, il a pris des deux bouts, puis il l'a écrasé, puis ça a fait une tranche. Tu vois, vous achetez un truc à je ne sais pas combien de dollars, mais finalement c'est une tranche vraiment qu'on vous vend, sans nutriments. Donc prenez des choses vraiment faites de grains, de blé entier, etc. pour que ce soit vraiment nutritif pour le corps. Les œufs aussi, on peut remplacer les œufs avec beaucoup de légumes, de graines, de noix, les graines du citrouille, etc. Vous pouvez trouver beaucoup d'éléments là-dedans. Les types de margarine, essayez de prendre les choses non hydrogénées avec qu'il n'y ait pas de gras trans dedans et des choses qui vous protègent, qui sont meilleures pour votre santé. Les protéines, parfois on en prend trop en mangeant beaucoup de viande et ces choses, et ce n'est pas forcément meilleur pour le corps, ça va causer des problèmes au niveau, donc on a dit des reins, au niveau des maladies du cœur, ça peut créer des cancers. Et autre chose aussi, c'est que ça va accélérer la puberté. Ça, j'ai remarqué, on est dans une génération où les jeunes ont une puberté très tôt. Précoce, merci. Ça fait que les jeunes filles, à comme 8 ans, les seins poussent et puis les règles commencent. C'est pas normal. Mais ça vient d'où? Ça vient de cette alimentation-là qui est surprotéinée et qui fait en sorte que ça qui devait arriver vers 12-13 ans, arrive 4 ans plus tôt. Donc la fille de 8 ans qui a un bébé dans sa tête est stressée avec ce qui se passe avec son corps. C'est normal, elle n'est pas prête pour ça. Donc c'est important aussi pour le bon développement des enfants dès qu'ils aient une très bonne alimentation. On trouve beaucoup de ces protéines en consommant des noix, tout simplement. En prenant beaucoup les noix d'amande, par exemple, sont très bonnes. Puis dans une bonne poignée d'amande, on va en avoir autant de protéines que l'on trouve dans un steak. Donc c'est des mythes. Ça, il faut des protéines pour avoir des gros muscles et tout. Les gorilles d'Afrique, là, ils sont très puissants. Ils ne mangent pas de viande. Les taureaux aussi, c'est surpuissant, un taureau. Ça ne mange pas de viande. Donc, où est-ce que lui, il trouve ses protéines? C'est vraiment un mythe. C'est vraiment un mythe. Les sucres naturels, donc pour éviter de consommer donc, ce sucre blanc qui ne nous donne aucun nutriment, mais qui prend tout nutriment pour le métaboliser, prenons les sucres d'origine naturelle qui se trouvent dans les fruits, qui se trouvent dans le miel, qui se trouvent dans le sirop d'érable, et qui se trouvent dans, exemple, le nectar d'agave. Et c'est ça, il y a beaucoup de sucres naturels que l'on peut prendre et qui vont donner ce que notre corps a besoin, notre corps est fait pour assimiler ces choses et tout, et ne pas avoir les effets néfastes de ce sucre de grosse production de masse qui détruit notre organisme. Donc, en résumé, nous devons vraiment choisir une nutrition qui est basée sur les plantes, sur le modèle que Dieu nous a donné à l'origine, et non pas basée sur les animaux qui souffrent encore des conséquences de notre péché à chaque fois qu'on les mange. Donc, sur ces 8 docteurs, où est-ce que vous pensez que vous avez le besoin de faire le plus de progrès? C'est à vous de calculer. Est-ce que c'est sur le premier, qui est la confiance en Dieu? Est-ce que c'est là qui est le plus grand défi? Est-ce que c'est sur le docteur numéro 2 qui est l'air? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sort pas assez, qui n'est pas présent, qui ne prend pas l'air pur? Ou est-ce que c'est le docteur de l'exercice? Vous êtes vraiment inactif. Et comme j'ai dit, faites selon vos capacités. Parce que vous pouvez, exemple, juste marcher, comme je disais hier, et puis penser que c'est bien, alors que vous êtes très jeune. Mais ce n'est pas parce que vous êtes mince que vous êtes forcément en bonne santé. Il faut de l'exercice pour que le corps soit en bonne santé. Et si votre corps a besoin de plus que juste une petite marche, eh bien, il souffre que vous ne lui donniez pas plus. Est-ce que c'est le soleil qui vous manque? Bon, ici, on a dit que ceux qui ont la peau foncée, on doit faire plus d'efforts parce que ça va nous manquer. Nous ne sommes pas dans l'hémisphère sud. Ou nous ne sommes pas plus au sud, en tout cas. Est-ce que c'est le repos? Vous ne reposez pas assez? Vous travaillez beaucoup? Vous êtes le genre de personne qui dort 4 heures par nuit et puis vous êtes correct? Est-ce que c'est l'eau qui vous manque? Vous ne buvez pas assez d'eau? Et votre corps en souffre et vous ne vous en rendez pas compte? Est-ce que c'est la tempérance? Vous prenez avec modération ce que vous jugez comme modération, les choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps. Parce qu'on dit avec modération, maintenant, chacun va mettre son quota de modération. Mais quand on dit l'abstinence totale de ce qui est mauvais, c'est plus facile de se retrouver. Ou est-ce que c'est la nutrition? Vous voyez que vous avez beaucoup de choses à changer au niveau de comment est-ce que vous vous nourrissez. Donc, ne me dites rien, mais réfléchissez là-dessus, puis nous avons tous à faire des progrès là-dessus. Ça fait que, pour nous quitter, pour que ce soit moins sec qu'hier, je vais vous demander de vous mettre debout. On va chanter le chant final. Et ensuite, je vais faire la prière de clôture.